Bonjour à tous. Alors moi, je suis ravi de vous retrouver ce matin. J'espère que vous êtes aussi heureux qu'on puisse être ensemble. On a un super temps. Moi, j'ai vécu une très belle semaine. Je ne sais pas si c'est votre cas. En tout cas, si ce matin, vous n'êtes peut-être pas dans la même réjouissance que moi, j'espère vraiment que vous allez pouvoir sortir de ce temps qu'on vit ensemble, encouragé, rafraîchi, avec de la paix en vous. Alors ce dernier chant, merci au groupe Le Louange, parce qu'en fait ça va faire un très bon enchaînement avec ce que j'ai préparé ce matin et ce que j'avais à cœur en fait. Qui était là la dernière fois où j'ai partagé? Ça remonte un petit peu, c'était au mois de février. Ouais, pas tout le monde. Alors en fait la dernière fois j'ai partagé sur la notion du fait que Dieu le Père avait pour nous un plan parfait où il voulait qu'on soit vraiment considérés comme fils et fille, et qu'on ne soit pas dans une notion de mentalité d'orphelin. Et durant mon partage, à un moment donné, il y a un aspect sur ce plan où je suis passé assez vite dessus, c'était la notion du fait de vivre une relation intime et authentique avec lui. Et ce matin, en fait, j'ai vraiment à cœur de pouvoir vous partager sur cette notion que Dieu nous appelle tous à pouvoir vivre une relation intime avec lui. Alors pour commencer, en fait, on va prendre un texte ensemble qui est dans Genèse 1, versets 26 et 27. Dieu dit « Faisons les humains à notre image ». Il y a d'autres textes qui disent « Faisons l'homme ». Moi, j'ai bien aimé les humains, comme ça considère tout le monde. « Selon notre ressemblance, pour qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur toutes les bestioles qui fourmillent sur la terre. Dieu créa les humains à son image, il les créa à l'image de Dieu ». Hommes et femmes, il les créa. Ce texte il est super parce que par moments, on voit aussi toute la notion juste de l'homme, mais là, on a bien hommes et femmes qui sont intégrés. Pas de sexisme, tout le monde est compris par rapport à ce que Dieu a prévu. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà interrogé sur la notion de fait à l'image de Dieu. Fait à l'image de Dieu, ça ne veut pas dire qu'on est des copies conformes de Dieu. C'est un sens, quand on commence à étudier le terme, quand on remonte aussi dans les textes sur la langue originelle, quand on regarde dans l'hébreu, etc., la notion de fait à l'image, ça a un sens spirituel. Fait à l'image, il faut comprendre en fait que Dieu nous a créés dans le sens d'être des êtres relationnels, d'être des êtres qui possèdent un esprit et qui sont capables d'être en communication avec lui, d'être en relation avec lui. Nous sommes tous créés par Dieu, ça c'est un fait, et c'est aussi une notion de foi, de croire ça. C'est un des premiers postulats de la foi. Et Dieu nous a voulu comme unique, chacun d'entre vous, si je vous regarde, il n'y en a pas un qui se ressemble, chacun de nous est unique, et en même temps on est tous dans une capacité relationnelle. Combien la relation pour nous a de l'importance déjà juste les uns avec les autres. Je pense dans nos amitiés, dans les relations de couple, la relation, c'est essentiel. Si on regarde tout ce qui sert d'enjeu à un moment donné à une amitié, tout ce qui sert d'enjeu pour un couple, tout ce qui sert d'enjeu aussi dans le travail professionnel quand on commence à travailler en équipe, toutes les notions renvoient au fait de la relation. L'essentiel, c'est la relation. Et en plus de ça, Dieu a implanté en nous un autre aspect, c'est la notion d'éternité. Je ne sais pas si vous connaissez Blaise Pascal, qui est un philosophe français du XVIIe siècle. Il a une citation très connue qui dit « Il y a un vide en forme de Dieu dans le cœur de chaque homme qui ne peut être rempli par aucune chose qui ait été créée, mais seulement par Dieu, le Créateur, et on revient à cette notion de création, qui s'est fait connaître aux hommes par Jésus ». Alors Blaise Pascal, c'était un grand penseur, un grand philosophe. Il était en plus croyant, transformé par Dieu. Et il s'est inspiré en fait de ce que dit l'Ecclésiaste, puisqu'on retrouve cette notion-là dans Ecclésiaste 3, verset 11. « Il fait toutes choses belles au moment voulu. Il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. » Il y a cet aspect aussi dans le fait que Dieu est créateur d'une notion un peu de mystère. Parce que Dieu, finalement, si on réfléchit et qu'on essaie de philosopher un petit peu sur le sens de la vie, à un moment donné, on peut se dire, il s'est bien complexifié les choses en nous créant. Parce qu'à un moment donné, il n'avait pas besoin de nous au départ, en fait. Il est Dieu tout-puissant, il est Dieu créateur. Il pouvait faire ce qu'il voulait, il pouvait continuer, on va dire, si on imagine, dans une notion un peu de science-fiction peut-être, mais il aurait pu gérer les choses tout seul, par lui-même, sans nous créer. Mais Dieu a une notion d'amour encore plus importante, au-delà de tout ce qu'on peut comprendre. C'est aussi cette notion-là qui est dit dans le fait qu'on ne peut pas tout saisir de sa part. Dieu, il nous a créés librement. Il l'a fait pour nous permettre, en fait, de connaître ce qu'il vit en lui-même. Alors, c'est un petit peu complexe à comprendre, on va voir un petit peu par la suite. Mais surtout pour nous communiquer qui il est et tout ce qu'il a en lui, sa joie, sa bonté, son amour, sa paix, sa sagesse, sa créativité. Et tout ça, c'est vraiment une marque, mais excellente, superbe, à un moment donné, de qui est Dieu et du cadeau qu'il nous a fait en nous créant. Alors vraiment, si vous en doutiez, je vais vous le redire ce matin, vous êtes voulu par Dieu et vous avez un sens à votre présence sur cette terre. Au-delà de cette notion de création, c'est quelque chose que je voulais vraiment poser comme postulat de base, il y a cet aspect que Dieu veut communiquer avec nous. Il l'a prévu dès le jardin d'Éden. Si vous lisez, à un moment donné, même quand Adam et Ève ont péché, il est dit que Dieu, à un moment donné, passe dans le jardin d'Éden. Alors, suivant les versions, c'est dit de différentes manières. Il y a certaines versions où c'est dit que c'est comme une brise, comme un murmure. Et cette relation dans le jardin d'Éden, elle était directe, à un moment donné, entre Dieu et les êtres humains, entre Adam et Ève. Malheureusement, elle a été rompue, à un moment donné, par le péché. L'homme a été chassé du jardin d'Éden. Et pendant des siècles, en fait, il n'y a plus eu cet accès direct au Père, à Dieu. Ça se faisait par l'intermédiaire, notamment des grands prêtres, du tabernacle, il y avait le lieu sacré. Le pardon des péchés passait par les sacrifices et par un intermédiaire. Ça ne veut pas dire que Dieu ne s'exprimait pas, hein, puisque si on regarde, à un moment donné, dans tout l'Ancien Testament, combien on a de grands hommes et de femmes même, qui ont eu cet accès, cette relation au Père. Si on regarde notamment Moïse, dont on a parlé pas mal aussi ces derniers temps, Moïse était considéré comme un ami de Dieu, en fait. Et c'est considéré comme un des exemples, on va dire, de la plus grande proximité possible avec Dieu le Père. Nous, on a eu cette rupture dans la relation, et donc il y a une nécessité de la retrouver pour combler nos besoins les plus profonds. Et c'est là que, du coup, Dieu a mis son plan parfait en place au travers de la venue de Jésus et de son sacrifice à la croix qui vient nous pardonner et nous redonner un accès direct au Père et un accès dans la condition de fils et de fille, tel qu'on l'avait partagé dernièrement et tel que même Jean-Luc a pu le rappeler. Je lui disais justement en arrivant, je lui dis, écoute, c'était pas prévu, on n'avait pas partagé nos thèmes, mais la manière dont tu as été conduit là, dimanche dernier, c'était vraiment, je trouve, un bon enchaînement avec ce que je faisais aujourd'hui. Alors j'ai repris dans Éphésiens qui résume un peu ça, hein. Mais Dieu est riche de compassion et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts du fait de nos fautes, il nous a rendus vivants avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés, il nous a réveillés ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ pour montrer dans les temps à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Donc nous avons tous la possibilité d'être rachetés et d'être pardonnés. Et puis, bien sûr, d'aller au-delà. Puisque Dieu ne veut pas qu'on s'arrête à cette notion juste d'être sauvé. Il veut pleinement se révéler à nous et qu'on puisse avoir avec lui une véritable relation intime. On trouve plusieurs passages. Alors, j'en ai repris deux. Hein. Vous verrez, il y a pas mal de passages ce matin. Je ne vais pas tous pouvoir les lire non plus. J'ai dû sélectionner. Mais j'en ai repris deux en particulier, Philippiens et 2 Pierre. Donc dans Philippiens 1, versets 9 à 11, « Et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour gagne de plus en plus en pleine connaissance et en parfait discernement pour que vous puissiez discerner ce qui est important. Ainsi vous serez purs et irréprochables au jour de Christ, où vous paraîtrez devant lui, chargés d'œuvres justes, ce fruit que Jésus-Christ aura porté en vous à la gloire et à la louange de Dieu. » Et dans 2 Pierre 3, verset 18, on retrouve aussi cette notion-là, où Pierre encourage à progresser sans cesse dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, je suis allé un petit peu chercher, je n'ai pas fait d'études des langues anciennes en grec ou en hébreu, mais Quand on commence à se plonger un petit peu là-dedans, on découvre des vraies richesses. Et quand on regarde la notion du terme connaissance dans le Nouveau Testament, dans le grec ancien, il y a un aspect très intéressant parce qu'il y a des moments dans certains passages, la notion de connaissance est prise juste sur l'aspect intellect, c'est le fait de savoir. Et quand on commence à aller plus en profondeur sur ce type de passage, la notion de connaissance, est-ce que vous savez à quoi elle renvoie ? Quand on parle dans la Bible de connaissance, de connaître. Au couple, alors on peut aller plus loin, hein. Vas-y, ose. Aux relations sexuelles. Il ne faut pas avoir peur du mot. La notion de connaissance, quand il est dit « Adam connut sa femme », c'est sur la notion de relation intime. Et en fait, quand on commence à creuser dans le grec ancien sur le terme connaissance, quand il est parlé des connaissances un petit peu comme on retrouve là dans ces notions-là, il y a cet aspect d'intimité. Parce que du coup, le fait de dire « Adam connut Ève », ça renvoie au côté de la sexualité. Mais ça renvoie à une notion, on sait très bien, la sexualité, ce n'est pas juste un acte physique, c'est un acte d'ordre très intime qui lie à la fois notre âme et notre esprit. Et dans cette notion de connaissance de Dieu, on retrouve dans les termes qui sont employés cet aspect de pleine intimité. Et moi, j'aime bien y voir le lien qu'en fait, Dieu, du coup, veut se faire connaître à nous d'une manière entière, corps, âme et esprit. Ce n'est pas juste. On peut très bien connaître Dieu de manière intellectuelle, savoir, entre guillemets, que Dieu existe, mais on a tous besoin pour aller plus loin d'une véritable révélation. Et c'est ça qui nous amène du coup au cœur du Père. Voilà, je parlais de cette révélation. Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez. Et on retrouve dans cette notion de révélation, quand on regarde un petit peu dans les textes du Nouveau Testament, toujours cet aspect de révélation par le Saint-Esprit. Dieu veut se faire connaître à nous, veut qu'on puisse le rencontrer au travers de Jésus, être pleinement pardonné de nos péchés, mais après il nous amène dans une étape supplémentaire au travers d'une révélation encore plus profonde par son Saint-Esprit, sur qui il est vraiment. Pourquoi développer cette relation avec Dieu ? Quel est son but derrière tout ça ? Eh bien, au-delà du fait de le rencontrer, d'être sauvé de nos péchés, il y a cet aspect où il veut, du coup, nous permettre de nous connaître au plus profond de qui nous sommes et qui il nous appelle à être. Quand on commence, du coup, à développer cette relation intime avec Dieu, Dieu va venir travailler notre identité, notre personnalité, va venir révéler aussi ce à quoi il nous appelle. Et c'est là où c'est très riche, parce que, comme je l'ai dit dès le départ, on est tous uniques. Et donc, il y a multitude d'appels sur nos vies et il y a multitude de richesses aussi par qui nous sommes. Il va travailler aussi sur notre caractère. Moi, j'ai vécu ça à un moment donné, c'est un petit témoignage. J'ai un parcours de vie chrétienne, je suis né dans une famille chrétienne. Mes parents n'ont pas pris de décision à ma place, mais j'ai été à l'église très rapidement quand j'étais petit. Et je me suis converti, je pense, à un vrai engagement de ma part, puisque j'en ai un vrai souvenir marquant à l'âge de 6 ans. Et donc ensuite, j'ai mené ma vie avec le Seigneur, voilà, j'ai continué. Et puis, il y a quelques années, là, en arrière, j'ai vécu comme une rupture par rapport à tout ce que je vivais avant. J'ai vécu un changement d'église, j'étais engagé dans une église, j'avais beaucoup de responsabilités, il y avait beaucoup de choses qui se vivaient. Et puis, d'un seul coup, pour différentes raisons, tout ça s'est tombé. Et je me suis retrouvé pendant, allez, on va dire, 3 à 5 ans, ça a été long, hein, mais pour moi, ça m'a paru très long, dans une notion où j'avais l'impression que j'avais plus cette intimité avec le Seigneur. Jusqu'à ce que je comprenne que dans ce temps que moi j'ai qualifié un peu d'un temps de désert pour moi, Dieu n'était pas absent, hein, parce qu'il m'a montré sa présence au travers de situations même de vie professionnelle, mais j'avais le sentiment que ma communion avec lui n'était plus la même, je ne sais pas pourquoi. À ce moment-là, je me posais beaucoup de questions. Jusqu'à ce que je comprenne en fait que Dieu était en train de me faire vivre un véritable temps où il était en train de creuser au plus profond de moi-même sur mon identité, sur mon caractère, sur ma personnalité, et qu'il m'appelait en fait vraiment à voir des choses changer au plus profond de moi-même. Et ça a mis du temps, et quand je me suis retourné sur ces années, en tout cas j'ai vraiment vu, et le Seigneur m'a rappelé des éléments très précis où sa main s'était vraiment manifestée sur moi et m'a montré ce pourquoi il m'avait mené dans ce chemin. On peut reprendre un autre exemple, hein, que je cite un peu plus tard dans la Bible, vous avez quelqu'un comme ça, c'est Job. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience de lire le livre de Job. C'est costaud, Job. Hein. Job, un gars au top avec le Seigneur, enfin vraiment un modèle d'engagement avec Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que Job va tout perdre. Mais alors, quand je dis perdre, c'est tout, hein, jusqu'à son moindre centime, jusqu'à moindre membre de sa famille. Il va vraiment ne plus rien lui rester. À un moment donné, on peut vraiment s'interroger en disant oh ben Dieu, ta bonté, où est-ce qu'elle s'exerce dans ce moment-là? Et Dieu avait dit à Satan, écoute, je te permets de toucher à tout ce qui l'entoure, mais ne touche pas à sa vie. Et en fait, dans toute cette situation, je vous résume rapidement, mais Job, du coup, va se retrouver remis en question, même par ses amis les plus proches. Et ça va être un temps très compliqué pour lui, jusqu'à ce qu'il ait une véritable révélation de ce qui est en train d'être vécu. Et je vous passe tous les détails, parce que ce n'est pas l'objet de mon message, mais il y a une chose que j'ai retenue quand on lit sur la fin de Job. Job dit, en fait... Alors, c'est peut-être pas la phrase exacte, mais je vais reformuler, c'est pas grave, c'est un petit peu comme ça, où il dit en fait qu'à un moment donné, il avait connu Dieu, mais dans le sens intellect, et que maintenant ses yeux l'ont vu, parce que Dieu va complètement restaurer au travers de tout ce qui s'est passé, et même multiplier dans la restauration à un moment donné, et ça va être un chemin très complexe pour Job. J'espère qu'on n'est pas appelé à vivre ça, parce que c'est vraiment très dur. Mais en même temps, au travers de tout ça, Dieu a béni et est venu complètement renouveler Job, plus seulement dans une connaissance intellectuelle de Dieu, juste un savoir, mais dans une véritable relation profonde avec lui. Tout ça pour vous dire que Dieu est capable aussi d'utiliser, et attention, dans ce que j'ai dit, je n'ai pas dit que c'est Dieu qui a provoqué les choses sur Job. Je ne pense pas que Dieu soit un Dieu... Père Fouettard, où ils viennent et puis ils nous provoquent les maladies, ils nous provoquent la souffrance, etc. Par contre, ce que je suis persuadé, c'est que dans toutes les circonstances de vie qu'on peut traverser, même dans les situations de souffrance les plus ultimes, Dieu est toujours présent et peut se manifester et peut utiliser les circonstances qu'on vit pour être pleinement glorifié, pleinement nous rétablir. Autre aspect du développement de cette relation dans le pourquoi. Eh bien, Dieu ne nous appelle pas juste à être auto-centré hein, sur nous, à être centré sur notre petite personne. À un moment donné, il nous appelle à pouvoir porter du fruit et être des ambassadeurs ici-bas de son royaume. Et ça, c'est possible, à un moment donné, porter du fruit et être ambassadeur de son royaume, uniquement si vous avez cette relation intime avec lui. C'est ce qui va développer vos fruits et ce qui va se répercuter sur les autres. Tout ça nous amènera à pouvoir lui rendre pleinement gloire. Alors, comment développer cette relation? À un moment donné, ça passe en premier lieu par l'aspect de pouvoir entendre et écouter. Il y a une grande distinction hein, que vous avez peut-être déjà entendue. Entendre, c'est percevoir. Écouter, il y a une notion de prêter attention et il y a une notion d'action qui est souvent entendue derrière, puisque derrière ce prêter attention, ça peut amener à mettre en œuvre derrière quelque chose. J'ai repris le passage de Luc 10, j'aime beaucoup ce passage. Il y a une belle histoire qui se vit, on va le lire ensemble. Luc 10, versets 38 à 42. Pendant qu'ils étaient en route, Jésus entra dans un village. Là, une femme nommée Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie. Celle-ci vint s'asseoir aux pieds de Jésus et elle écoutait ce qu'il disait. Pendant ce temps, Marthe était affairée aux multiples travaux que demandait le service. Elle s'approcha de Jésus et lui dit « Maître, cela ne te dérange-t-il pas de voir que ma sœur me laisse seule à servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Mais le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il n'y en a qu'une seule qui soit vraiment nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et personne ne lui enlèvera. » J'aime bien ce passage. Parce que finalement, c'est aussi un petit peu moi dans ma vie de tous les jours. Je fais exprès, c'est peut-être pas vous. Hein, mais moi, dans ma vie de tous les jours, j'ai un très bon emploi du temps qui est bien chargé. Je fais pas mal de choses. Les choses sont bien prévues à l'avance. J'aime bien être bien organisé, tout ça. Et finalement, derrière tout ça, quel temps je laisse réellement à Dieu pour qu'il puisse me parler? Alors, je fais exprès de le dire au jeu. Hein. Libre à vous de pouvoir vous sentir concerné. On parle souvent à Dieu, mais est-ce qu'on l'écoute vraiment ? Est-ce que nous prenons vraiment le temps de l'écouter ? Est-ce que parfois nos temps de relation avec lui, si on prend juste un temps de prière, est-ce que ce n'est pas un petit peu notre liste de courses ? Je fais exprès de le dire comme ça. Parce que ça va être très facile de dire « Oh Seigneur, je te bénis pour cette journée, prends soin de moi, bénis mes collègues. » Voilà, bon, Seigneur, super, amen, merci, que je passe une bonne journée. Hop, ouais, j'ai vécu ma relation avec Dieu, là j'ai pris 10 minutes ce matin. Quel temps on a pris pour écouter à ce moment-là ? Vous avez dit beaucoup de choses, quand c'est ça, on dit beaucoup de choses, mais on n'a pas forcément médité sur ce que Dieu voulait nous dire réellement. Prendre le temps d'écouter Dieu, ça s'apprend. Et l'exemple qu'on a là, hein, il est très intéressant, puisque du coup, on a cette notion de Marthe qui est super affairée, qui veut que tout soit bien pour accueillir Jésus. Enfin, c'est pas anodin, elle accueille quand même Jésus dans sa maison, je peux la comprendre. Et de l'autre côté, on a Marie qui, elle, reste assise aux pieds de Jésus et qui écoute. Marie, elle a fait le choix à un moment donné de dire stop un petit peu à tout ce qui pouvait se passer autour, à tout ce qui pouvait être sembler peut-être important, pour prendre ce temps pour écouter. Écouter, ça veut dire aussi être capable de faire silence à l'intérieur de soi-même et de trouver la notion pour qu'il y ait silence à l'extérieur. Alors, ce n'est pas toujours simple. Hein. Je pense à ceux qui sont pères, mères de famille, même quand on a des enfants en bas âge, ça court pas mal, ça remue, il faut s'occuper. En plus, si on a le boulot qu'il y a à côté, etc. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent nous contraindre. Comment trouver ce silence ? Qu'est-ce qui peut, à un moment donné, nous aider ? C'est quelque chose d'essentiel et auquel vraiment Dieu nous appelle. Moi, j'ai un petit témoignage sur ça. Je vous témoigne de ce que je vis. c'est plus facile pour moi. Mais il y a un an, en fait, j'ai vraiment été interpellé par Dieu sur le fait de prendre soin, pas juste de moi intérieur, mais de moi extérieur. Ça peut paraître bizarre, mais Dieu m'a dit il faut que tu prennes vraiment soin de ton corps physiquement. Et donc, j'ai commencé à faire un petit peu plus attention à ce que je mangeais. Je me suis dit, bah, tiens, je fais déjà du sport, je fais du foot 2 heures par semaine, mais est-ce que je pourrais pas caler des petits créneaux autres ? Et j'ai commencé à courir. Alors, je suis pas au point de notre grand sportif qui est devant, là. Bravo pour ton chrono, Jo. Moi, j'en suis pas là. Mais en commençant à courir, j'ai découvert une chose, en tout cas, c'est que Dieu se servait de ces temps-là pour me parler. Parce que quand vous courez, à un moment donné, vous vous déconnectez. Alors, vous, au départ, vous pouvez commencer à courir, puis à penser à tout ce qui s'est passé, etc. Mais quand vous commencez vraiment à pouvoir courir un petit peu plus longtemps, faire 2, 3, 4, 5 kilomètres, vous vous rendez compte que votre cerveau, à un moment donné, se vide de tout ce qui se passait autour. Et moi, Dieu a commencé à me parler dans mes petits running perso. Et j'ai commencé à pouvoir avoir un vrai temps d'intimité supplémentaire avec lui durant cet temps-là, où il m'a parlé, il m'a même donné des paroles pour des personnes à certains moments donnés. Et je sais que du coup, c'est quelque chose que j'ai gardé inscrit dans mon temps personnel. Et je conjugue à la fois le fait de prendre soin de moi et de faire du sport, ce qui est bon, et en même temps de passer du temps avec Dieu durant ces moments-là. J'ai aussi rentabilisé mes trajets en voiture. J'ai à peu près 1 heure de trajet par jour, en moyenne, et on peut très vite les passer à râler après les autres automobilistes, quand on est dans les bouchons. Et à un moment donné, Dieu m'a interpellé sur cet aspect-là, mais est-ce que tu ne peux pas utiliser autrement ce temps-là ? Et donc mes temps de trajet sont devenus des temps où soit je peux vivre un temps de louange, soit ça m'arrive d'écouter un message, soit du coup c'est un temps où je me mets à l'écoute de Dieu. On peut conjuguer le fait d'être attentif au volant et d'écouter Dieu, ça marche. Ça fonctionne bien. Je n'ai pas eu d'accident. Méditer, faire silence, c'est se poser devant Dieu en disant à un moment donné, que veux-tu me dire ? Qu'est-ce que tu veux appliquer par rapport à moi ? Sur quoi tu veux m'interpeller ? Développer cette relation, ça nécessite aussi beaucoup d'humilité. Je vous ai donné des exemples de ma vie, je suis très loin d'être parfait. Humilité, et j'ai repris ce passage de Matthieu 11, verset 25, « Je te loue au Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées à ceux qui sont tout petits. » Et il y a un aspect super intéressant avec Dieu, c'est qu'à un moment donné, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage aussi où Jésus accueille les enfants, hein, et où il est dit que le royaume est possible et est destiné à ceux qui sont comme ses enfants. Et c'est quelque chose qui est même très présent dans la parole. Si vous regardez, à chaque fois que Dieu a voulu transformer l'État d'Israël de manière profonde, je ne sais pas si vous aviez déjà fait le parallèle, mais il s'y est souvent pris en prenant un enfant. Moïse, au départ, un enfant sauvé des eaux. Joseph, un enfant. Alors, ils n'étaient pas parfaits. Hein. Dieu a travaillé leur caractère, hein, parce que Moïse, situation complètement abandonnée, livré au peuple qui les rendait esclaves, il commet un meurtre bien plus tard. Sur le coup, on peut dire, ouais, Seigneur, c'était peut-être pas le meilleur candidat que tu peux choisir. Et pourtant, comme je vous l'ai dit au départ, Moïse est considéré comme étant un de ceux qui avaient la plus grande proximité avec Dieu. Même chose, hein, Joseph, petit peu vantard avec ses rêves. Vous allez tous vous abaisser devant moi, mes frères. Boum, il se retrouve au fond d'un puits, mis en esclavage. À mon avis, dans la prison et dans le puits, il a eu le temps après de bien ruminer, puis d'avoir Dieu qui travaille vraiment au plus profond de lui-même son caractère. Et j'ai un témoignage récent. Par rapport à ça, sur cet aspect d'être un enfant. J'ai quelqu'un dans ma famille, ils ont un petit garçon de 2 ans, et là, depuis quelques semaines, en fait, c'est très récent ce témoignage, depuis quelques semaines, en fait, leur petit commençait à faire des terreurs nocturnes. Et il ne fait jamais ça. Et puis pourtant, ce n'est pas l'âge spécifiquement des premiers cauchemars. Normalement, c'est un petit peu plus tard quand on regarde sur le développement psychologique de l'enfant. Et donc, ça arrivait une fois, deux fois, réveillé en pleine nuit. Alors, pour les parents, ceux qui ont des petits, je vous laisse imaginer comment on est le lendemain matin, tout ça. Et donc, troisième fois où ça arrive, le papa, du coup, là, que je connais très bien, il s'est dit, c'est pas normal, c'est des personnes engagées, chrétiennes. Et du coup, il s'est dit, je vais prier. Donc, il a pris son fils dans les bras, il a prié pour lui, il a prié même en langue, il a pris position, et puis son fils s'est vraiment calmé, il l'a reposé dans le lit. Le lendemain, sieste du petit, terreur, à nouveau. Et du coup, sa mère là arrive et se souvient de ce qui a été fait la veille, parce qu'elle avait partagé avec son conjoint. Et du coup, elle commence à interroger son petit. Et donc, ce petit garçon là qui a 2 ans et qui l'a dit avec ses mots, dit « Derrière la vitre, il y a un monsieur qui me veut du mal. Il y a un monsieur qui est méchant et qui veut rentrer dans la chambre. » Et à ce moment-là, du coup, la maman a prié là pour le petit garçon. Elle a vraiment pris position en disant que la maison n'était pas accessible à cette personne. Et d'un coup, le petit, il s'est mis à éclater de rire, du rire que moi je lui connais quand il est super heureux. Et du coup, sa mère, elle comprend parce que c'était très brusque, alors qu'il pleurait, qu'il n'était pas bien. Et là, il lui dit « Jésus vient de chasser le méchant. » Jésus vient de faire partir le méchant. Jésus, c'est mon ami, c'est mon copain. Ah, quand ils m'ont raconté ça, dites, ouais, Seigneur, t'es grand. Et on a beaucoup à apprendre, nous, adultes, pour faire tomber un petit peu nos barrières d'orgueil et pour retomber un petit peu avec cet état d'esprit d'enfant. Et alors, depuis, les jours suivants, c'était très drôle, mais ils m'ont raconté. Mais du coup, ce petit garçon, il était là, il disait, dans la journée, alors qu'il jouait, il dit, il faut louer Dieu, il faut louer Jésus, il est gentil, Jésus. Puis en prenant le bus, Jésus, il monte avec nous dans le bus. Alors sa mère, elle disait, moi qui est assez un petit peu réservé, tout ça, là, je suis en train de grandir à l'école de Dieu, puissance 10, pour retrouver cette notion d'humilité et d'esprit d'enfant. Ça, c'est pour vous dire aussi que du coup, cet aspect d'écoute de Dieu, c'est pas juste dans les histoires bibliques, c'est aussi actuel. Avoir un cœur bien disposé. Alors, on n'aura pas le temps de le lire ensemble, mais je vous l'ai mis pour ceux qui veulent. J'ai mis l'exemple de David. C'est dit dans Actes 13, 22 que David était considéré par Dieu comme quelqu'un ayant un cœur bien disposé. Et si on regarde, qu'est-ce que ça veut dire un cœur bien disposé? Il suffit d'aller dans Psaume 63, versets 2 à 9, je vous encourage à pouvoir le lire. Mais vous avez tout un détail de ce qu'est ce cœur bien disposé, ce cœur qu'avait David. J'ai mis juste deux questions à la fin qui peuvent amener à la réflexion, hein, mais finalement, comment nous présentons-nous devant Dieu? Qu'est-ce qui nous restreint aussi finalement dans notre relation à lui? Est-ce que c'est mon planning? Est-ce que c'est mon emploi du temps? Est-ce que peut-être c'est parce que je n'ai pas encore cette notion de la compréhension de ce que ça veut dire la relation intime ? Ça peut être beaucoup de choses. Comment Dieu veut-il nous parler ? J'ai déjà donné quelques exemples. Alors, je vous ai fait ce qu'on appelle un nuage de mots. J'ai essayé de mettre plein de choses qui existent. Dieu peut nous parler par sa parole, par la création, par des proches, par la prière, par le Saint-Esprit, par des visions, des prophéties, des rêves, des enseignements, les circonstances. En fait, ce qui est important à retenir derrière tout ça, c'est que Dieu n'est pas limité du tout dans le fait de pouvoir vous parler et de pouvoir construire cette relation avec vous. Notre Dieu, il est créatif, il est surprenant, il est bon et il se renouvelle à chaque fois. Il n'y a pas forcément une modalité. Il n'est pas limité. Allez, j'insère un autre petit témoignage assez drôle aussi qui m'est arrivé dernièrement sur ça. Mon frère est parti faire un voyage à l'étranger. Il est allé sur un séminaire chrétien dans un pays anglophone. Et avant le séminaire, il y avait un temps pour ceux qui voulaient pour pouvoir prier pour les gens. Et du coup, mon frère, du coup, il s'est avancé parce qu'il avait un sujet de prière. Et chose drôle, en fait, la première chose que la personne, au moment où la prière démarre, elle lui dit « Est-ce que tu as un grand frère ?» Donc il était à des centaines, voire des milliers de kilomètres. Il s'est retrouvé face à une personne qui ne le connaissait pas. Et la personne lui dit « Est-ce que tu as un grand frère ?» Elle répond « Oui. Est-ce que tu es assez proche de lui ?» Bah ouais. Et là, la personne lui dit « Il faut que tu encourages ton frère. » Alors, c'était moi, en fait. Parce qu'il est en train de vivre des changements dans sa vie, ce qui est vrai. Je suis en train de vivre un changement professionnel, mais je suis très en paix par rapport à ça. Et en fait, la personne est venue lui dire que globalement, Dieu conduisait et validait vraiment ce qui était en train d'être vécu et qu'il devait me le transmettre. Dieu n'est pas limité, hein. Alors c'est bien, aujourd'hui il y a Internet, tout ça, donc mon frère me l'a transmis quasiment dans l'instantané en me disant « Écoute, tu vas rire, mais je fais ces milliers de kilomètres, je vais sur ce séminaire, parce que ce séminaire n'avait lieu que là. » Et la première chose qui m'arrive, c'est que je reçois une parole, mais ça te concerne du coup. Il y a deux éléments essentiels sur lesquels je voudrais vous interpeller, en tout cas pour la manière dont Dieu veut nous parler et dans la manière dont il veut qu'on construise cette relation intime avec lui. C'est sa parole, la Bible, et la prière. Ça, c'est deux fondements clés qu'il nous a donnés et qui sont, je veux dire, immuables dans cette relation avec lui. Pareil, du coup, lire sa parole, on peut le faire de la même manière, je vous parlais de notion de méditation, mais on peut lire la parole juste comme on lirait un roman, hein. Et après, il y a l'étape supplémentaire où, à un moment donné, vous commencez à pouvoir méditer la parole de Dieu vraiment. À prendre ce temps aussi de silence devant Dieu en disant bah, « Dieu, là, je vais prendre un temps où j'ai lu ça. Qu'est-ce que tu veux vraiment me dire ? Qu'est-ce que ce sur quoi ton Saint-Esprit veut m'interpeller ? Qu'est-ce que tu as à me dire au travers de ce que je viens de dire ?» Et ça peut être des moments, mais alors vraiment très riches, vécus avec Dieu. Si vous avez des difficultés à lire, si c'est complexe pour vous, on trouve même aujourd'hui en ligne, hein, il y a des choses qui sont même proposées, lues. Il y a notamment, en fait, alors c'est pas pour faire de la pub, mais c'est ce que je connais, la Ligue pour la lecture de la Bible suisse. Elle propose plein d'outils, même maintenant, qui sont en audio accessibles gratuitement. Vous avez le lecteur tous les jours, vous avez un passage et une méditation. Et ça, si vous avez des difficultés même à pouvoir lire ou à prendre le temps, ça se propose. Enfin, vous avez une lecture audio qui est faite et qui est très bien menée. Si vous n'avez vraiment pas de temps et que vous voulez même juste commencer par quelque chose parce que c'est difficile pour vous, il y a même un guide qui s'appelle le guide Expresso. Petit lien avec le café du matin. Et en fait, ça vous propose en quelques minutes, 4 minutes, ils garantissent, le fait d'avoir la lecture d'un passage et d'avoir une réflexion. Alors c'est un début, hein, parce que je peux vous garantir que quand on commence à goûter à cette relation avec Dieu, petit à petit se crée en vous cette notion de soif et de vouloir en savoir encore plus et de vouloir encore prendre plus de temps avec lui. Alors j'ai remis quelques exemples, il y en a que j'ai déjà cités, hein, sur la manière dont Dieu peut parler, sur le fait qu'il n'est pas limité. Dieu peut parler au travers du silence et du calme. Et ça peut être compliqué pour nous à apprendre, parce qu'on aimerait bien tout de suite avoir, il y a des moments quand on lui demande, ou quand on se met à son écoute, l'entendre directement. Je vous invite à pouvoir relire hein, le passage de 1 Roi 19, versets 11 à 13, où justement, Élie, il y a plein de tourbillons qui se passent autour de lui, et en fait, Dieu va se révéler dans le calme et le silence. Joseph, j'en ai parlé. Samuel, quand il était enfant, directement la nuit, là, Dieu lui a parlé, il a même cru que c'était Élie qui était en train de l'appeler. Moïse, on en a parlé, Dieu peut même utiliser les animaux. Si vous n'avez jamais lu cette histoire, allez dans Nombre 22 et vous découvrirez que Dieu a utilisé une ânesse et un ange pour parler à Balaam, parce que Balaam, il était un petit peu têtu sur une situation particulière. Puis pour reprendre dans le Nouveau Testament, Joseph et Marie, ils ont vu des anges, des visions. Alors cette relation, et après, c'est pour quelles conséquences finalement ? Parce que j'ai dit que ça nous concerne nous, mais que Dieu ne se limite pas à notre petite personne. À un moment donné, quand vous allez développer cette relation pleine, entière, intime avec lui, ça va vous amener aussi à pouvoir développer pleinement votre amour pour les autres. Même pour ceux que vous auriez le plus de mal à pouvoir aimer autour de vous. Jésus, il en est un grand témoin. Si on regarde tout son ministère sur terre, il ne s'est pas tourné vers les personnes les plus recommandables. Et derrière, à pouvoir porter du fruit. Ça nous amène aussi à pouvoir être, du coup, les ambassadeurs de son royaume ici-bas et être des canaux pour manifester, à un moment donné, les valeurs, la culture du royaume de Dieu ici-bas. Et en Église, j'ai mis ambassade parce que finalement, si on est tous des ambassadeurs du royaume, l'Église, alors pas le lieu fixe, mais j'aurais dû mettre avec un grand E, l'Église, finalement, on est un petit peu cette ambassade du royaume de Dieu ici-bas. Alors j'en arrive à la fin de mon partage de ce matin. Alors, je ne sais pas si on verra bien. Je voulais faire un petit parallèle. Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle la notion de proximité. Moi, c'est quelque chose que j'utilise. Peut-être que Nadège, en tant que psychologue, tu connais, je pense. La proximité, c'est à un moment donné une étude qui a été faite sur les sphères d'influence qu'on a par rapport à la proximité des personnes, mais de manière physique. J'essaie de le simplifier pour que ça soit compréhensible de tous. C'est les distances qu'on a entre humains au moment donné de d'interaction, d'échange, qui ont été étudiées. Par exemple, là aujourd'hui, par rapport à vous, je suis dans une distance qu'on va qualifier de sociale. C'est une distance qui est entre 1,20 m et 3,60 m. Donc c'est un petit peu ce qui nous sépare. Quand on commence, du coup, à être dans une relation plus proche, on va passer dans la sphère personnelle, 45 à 125 cm. Et au tout milieu, la distance qu'on appelle intime, 40 cm. Alors moi, c'est un outil que je travaille avec mes étudiants en soins infirmiers, parce que quand vous êtes soignant, vous vous retrouvez très vite dans l'intimité des gens. Il faut savoir qu'on a tous, par rapport à ça, des distances individuelles qui nous laissent en sécurité. Je veux gêner personne, mais on pourrait faire, je fais toujours un petit exercice avec mes étudiants, où d'un seul coup, je me rapproche très proche d'eux, voire je pose une main sur eux, sans les prévenir. Qu'est-ce qui se passe souvent ? Grosse grimace, retrait. Parce qu'on a tous cette notion de distance de sécurité. Et pour terminer, je voulais faire un petit parallèle au travers de cette image de la proximité, pour qu'on puisse se questionner avant que je conclue et qu'on puisse prier ensemble. Où est-ce que vous vous situez, où est-ce que nous nous situons chacun aujourd'hui dans notre relation avec le Seigneur ? Est-ce qu'on est peut-être juste dans cette sphère publique sociale ? On le connaît, mais on n'a jamais vécu vraiment cette intimité avec lui. Est-ce qu'on a déjà goûté un petit peu à une notion peut-être plus personnelle avec lui ? Ou est-ce qu'on est déjà, et tant mieux, dans cette notion d'intimité pleine et profonde avec lui ? Un petit peu comme Jean le faisait avec Jésus, quand on lit dans les textes où Jean, il était dit que Jean posait sa tête sur Jésus, sur la poitrine de Jésus, où il y avait cette intimité profonde qui les liait entre eux. Est-ce qu'on est déjà au cœur de cette intimité avec le Père ? Et ce n'est pas du tout une culpabilisation, quand je le dis, ça se veut vraiment être un encouragement. Et j'aimerais prier pour conclure, et je vous ai mis juste ce chant, je ne sais pas si vous le connaissez, il n'y aura pas de musique. C'est un chant qui a été écrit par Bruno Lafitte et qui dit ceci. « Si je me tais où j'apprendrai à écouter la voix du bon berger, quand je l'entends où je comprends qu'il a payé pour ma liberté, quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur, quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler, et ta loi dans mon cœur toujours demeure, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. » Pour ceux qui veulent, vous le retrouvez sur YouTube, ça s'appelle « La voix du bon berger ». Je vais prier pour conclure. Seigneur, on veut vraiment te remercier parce que tu es ce Dieu bon, tu es ce Père pour nous, comme ça nous a été rappelé aussi la semaine dernière. Tu es ce Père qui veut vraiment pouvoir nous serrer dans ses bras, Seigneur, auprès de qui on peut trouver, Seigneur, cette profonde intimité, ce profond soutien, cette pleine expression d'amour et de bonté. Père, merci parce que ça ne se limite pas juste pour qu'on soit bien, mais c'est aussi un enclenchement pour qu'on puisse ensuite rayonner autour de nous et être des porteurs, Seigneur, être ces canaux d'amour auprès de notre entourage, auprès de nos proches, Seigneur. Père, je veux te prier pour nous tous qui sommes présents ici ce matin. Tu nous connais, Seigneur, individuellement, personnellement. Merci parce que tu nous as voulu. Merci parce que tu nous as créés. Merci pour la spécificité qu'on a chacun d'entre nous, Père. Je te prie, Seigneur, de pouvoir te révéler encore plus à nous, encore plus profondément, qu'on puisse venir pleinement goûter à cet amour, à cette proximité, à cette intimité avec toi. Merci parce que tu es ce Dieu patient et que tu ne nous juges nullement, Seigneur, quelle qu'en soit l'étape, la saison où on en est avec toi, tu es toujours prêt à nous accueillir, Père. Amen.